Nous avons demandé à Pierre Chumikin d'évoquer avec nous la question de l'initiation des élèves à la pensée informatique et à la programmation. Et puis à Gilles Roisin-Fiertina de nous exposer comment, concrètement, là encore en classe, il y a travail pour construire l'apprentissage de l'algorithmie et de la logique de programmation en CM1 et CM2. La parole est à vous.
Bonjour, donc je m'appelle Pierre Chounikin, je suis prof d'informatique à l'université de Grenoble. Comme je disais ce matin, je travaille à mon domaine de recherche, c'est l'utilisation de l'informatique pour l'enseignement et l'apprentissage, donc la conception d'environnement informatique. Je dirige une équipe à l'université de Grenoble au sein du laboratoire d'informatique de Grenoble avec des didacticiens en maths et en sciences et des informaticiens comme moi où on travaille sur la conception. Mais ce n'est pas de ça dont je vais parler, donc je vais parler d'initier les élèves à la pensée informatique et à la programmation avec Scratch. Ce que je vais présenter, c'est une réflexion qui est un travail qui a été mené dans le cadre de la préparation et d'un cours qui est donné à l'ESPE de Grenoble, donc auprès de professeurs des écoles, stagiaires. Donc le niveau auquel je fais référence, c'est celui du cycle 3, CM1, CM2. Dans le cadre de ce cours, j'ai fait non pas un support de cours, mais un document qui est en ligne, donc vous le trouverez facilement sur mon site web. Donc si vous tapez mon nom et mon prénom dans un moteur de recherche quelconque, et vous trouverez facilement ce doc. Et si vous le lisez, je serais intéressé d'avoir des retours, parce que ça me permet d'améliorer ma réflexion et ce que je dis aux étudiants. Et je suis ravi d'intervenir après la présentation qu'on vient d'avoir, parce que ça va faire écho à pas mal de choses qui ont été dites. Là, c'est le temps de ma présentation, c'est un petit bout de programme Scratch, je ne le lis pas, je fais l'hypothèse que vous avez compris, que vous avez lu, et si c'est le cas, ça veut dire que Scratch, c'est suffisamment explicite pour que même des gens qui le découvrent pour la première fois puissent lire et comprendre. Donc, je vais prendre les choses par le côté pédagogique, et première question, pourquoi enseigner l'informatique à l'école ? Donc j'ai cherché un petit peu les arguments que l'on trouvait un petit peu partout. Donc il y a des choses qui sont liées à la nouveauté, des choses qui sont liées à l'effet de mode, il y a aussi des enjeux scientifiques, politiques, disciplinaires, humains, comme toujours, mais particulièrement sur ce domaine-là. Donc on trouve des choses qui relèvent de l'anecdotique, j'ai eu une expérience formidable, mon petit frère adore, etc. C'est pas que ce soit pas vrai. Ça relève quand même de l'anecdotique. Ensuite, on trouve des choses qui sont de nature différente, qui sont, il faut comprendre le monde dans lequel on vit. Et on vit dans un monde numérique, il faut comprendre le monde numérique. Et comprendre le monde numérique, c'est différent de comprendre ce que c'est que l'informatique et surtout ce que c'est que la pensée informatique. J'essaierai d'expliquer pourquoi. On trouve des choses qui sont de l'ordre du lobby, au sens positif du terme, c'est-à-dire je suis représentant d'un domaine, d'une discipline, et je souhaite que cette discipline soit enseignée. Évidemment, c'est plus important, plus intéressant de le voir comme pourquoi est-ce qu'on souhaite que ce soit enseigné, et en l'occurrence, parce que c'est un domaine scientifique important, donc il y a pas mal d'arguments de ce type-là. Et puis, il y a des choses qui relèvent parfois d'arguments un petit peu bizarres, c'est un secteur qui embauche, alors quand on enseigne l'informatique, peut-être en terminale, ça peut avoir un effet sur l'orientation des élèves après le bac. Mais quand on l'enseigne en primaire, quand on entend ce genre d'argument, ça paraît un non-sens total. C'est à peu près comme si on disait on enseigne la lecture et l'écriture pour que les élèves deviennent écrivains. Bon, il y en a peut-être qui deviendront écrivains dans le temps, il y en a peut-être qui deviendront informaticiens dans le temps, mais évidemment, c'est pas ça qu'on cherche à faire au cycle 3. Et ce qu'on va chercher plutôt, en tout cas c'est comme ça que je vais le prendre moi, c'est parce que ça permet de développer des compétences et des compétences qui sont importantes. Et en fait, l'enseignement, non pas de l'informatique, mais de la pensée informatique, va permettre de développer des compétences importantes. Et c'est ce qu'on a vu dans l'exposé précédent. Alors ça, c'est pour des arguments. Quand on regarde les objectifs qu'on trouve dans la littérature, on trouve aussi des choses assez diverses. Donc on trouve des choses de type techno, c'est-à-dire expliquer comment ça fonctionne. Donc expliquer comment fonctionne un ordinateur, expliquer comment fonctionne un réseau d'ordinateurs, expliquer comment on code l'information, et ainsi de suite. On trouve un autre type d'argument, c'est il faut faire apprendre, il faut faire comprendre aux élèves les logiques, des choses d'usage courant, c'est-à-dire non pas forcément le comportement, fonctionnement électronique de l'objet ordinateur, mais qu'est-ce que c'est qu'une page web, comment fonctionne un moteur de recherche, comment fonctionne une messagerie, qu'est-ce qui se passe quand on envoie un mail, et ainsi de suite. Alors on peut voir ces choses-là à un niveau très techno, au sein d'ordinateur, où on peut voir les choses à un niveau plus abstrait, c'est-à-dire en termes de machine abstraite. Je vous laisse jurer le micro. Okay. Ensuite, on peut voir des choses, des objectifs qui relèvent de l'algorithmique, c'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'un algorithme et les notions sous-jacentes. Un objectif différent, c'est de pratiquer la construction d'algorithmes. On peut très bien comprendre sans savoir pratiquer, comme on peut comprendre la peinture sans savoir pratiquer la peinture. Et puis, plus généralement, on peut regarder la démarche de résolution de problèmes, c'est-à-dire avoir un problème, être capable de décomposer pour aller jusqu'à un algorithme. On trouve des objectifs qui sont autour de la notion de langage. Donc on trouve dans certains textes l'idée qu'il faut enseigner aux élèves la notion de langage en tant que tel, c'est-à-dire comme un système de codage. L'information, le codage de l'information, un langage c'est aussi un outil de pensée. On peut voir la notion de langage en tant que langage de programmation, comprendre ce que c'est qu'un langage de programmation, et toujours la même idée, pratiquer un langage de programmation, savoir programmer, c'est quelque chose de différent. On trouve des arguments qui sont, ce n'est pas des objectifs pédagogiques liés à l'informatique, mais c'est enseigner autre chose avec l'informatique. Alors là, je ne parle pas d'utiliser l'outil numérique pour enseigner, les tableaux numériques, etc., mais de mettre les élèves en situation de construction de programme, le but de la construction du programme n'étant pas ou pas uniquement qu'ils travaillent l'algorithmique, mais qu'ils travaillent également d'autres compétences en maths, en français ou dans une autre discipline. On trouve des choses autour de la créativité, on l'a entendu cet après-midi, développer sa créativité. Savoir exprimer sa créativité sous la forme d'un problème qu'on va ensuite essayer de résoudre, en l'occurrence qu'on va essayer de résoudre à travers des outils informatiques. Et puis on trouve des objectifs qui relèvent de l'éthique, c'est-à-dire de sensibiliser à des questions d'éthique, des questions de morale autour de comment fonctionne Google, des traces informatiques, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on a des arguments extrêmement divers et on a également des objectifs pédagogiques extrêmement divers. Et si on n'essaye pas de préciser les choses, on a un discours, je pense, un petit peu général sur le numérique, l'informatique, et où on mélange un petit peu les choses. Et donc il faut essayer, je crois, d'aller dans les détails, de préciser. Et vous allez voir que mon propos ne va pas du tout être d'aborder toutes ces questions-là. Là, je vais simplement essayer de préciser les choses et d'expliquer pourquoi je vais prendre les choses par quoi enseigner, c'est-à-dire en termes d'objectifs pédagogiques. Qu'est-ce qu'on cherche à enseigner ? Alors, quand on regarde les textes, on trouve des choses qui relèvent d'un objectif pédagogique qui est clair, qui est initié à la discipline informatique, c'est-à-dire à ce que c'est que l'informatique, faire comprendre ce que c'est que l'informatique. Et là, on trouve des textes, donc j'ai repris là un extrait de texte qui était une proposition d'orientation générale pour les programmes d'informatique à l'école primaire, donc c'est un texte public, vous pouvez le trouver facilement, et qui insiste sur l'importance d'enseigner, d'aborder cette discipline à l'école primaire. Dans le même genre, on a l'avis de l'Académie des sciences qui parle à la fois du primaire, du secondaire et du lycée, où on retrouve cette idée que l'informatique est une discipline clé, qui a une nécessité de comprendre le monde. Il parle d'illettrisme informatique, c'est quand même un mot assez fort, et il parle ensuite de retard de la France, d'emploi, etc. Donc là, on est sur un objectif qui est comprendre ce que c'est que l'informatique. Et les promoteurs de cette vision vont mettre en avant des notions, et les notions qui sont mises en avant dans ces textes-là, c'est la notion de langage, au sens propre du terme, d'information et de codage de l'information, d'algorithmique et de machine, en général au sens abstrait du terme, c'est-à-dire ce que c'est qu'un processeur d'information, et l'ordinateur n'étant qu'une mise en œuvre technologique de ces principes. Quand on regarde les programmes, alors si je ne me suis pas trompé de version des programmes, parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs versions successives, mais quand on regarde le socle commun, on trouve ce texte-là. Donc vous voyez que les élèves, donc socle commun à 16 ans, sont censés connaître les bases de l'algorithmique, de la conception de programmes informatiques et savoir les mettre en œuvre, donc faire des programmes sur des exemples simples. Comme je vous l'ai dit, moi je me suis intéressé plutôt au cycle 3, donc on trouve différentes choses, dont pas mal de choses en lien avec les maths, parce que, évidemment, historiquement, les maths, l'informatique et la géométrie, on trace des courbes, etc. Donc c'est le lien avec Caprice Géomètre, GeoGebra, et des choses comme ça. Mais on trouve quand même, au cycle 3, donc CM1, CM2, puis maintenant ça se continue au collège, que les élèves découvrent l'algorithme en utilisant des logiciels d'application visuelle et ludique. J'ai fait un copier-coller, parce que découvre l'algorithme, en fait, ça ne veut rien dire, c'est découvre l'algorithmique, je pense. Mais bon, il y avait une coquille ou quelqu'un qui ne savait pas. Mais vous voyez qu'on retrouve cette idée que les enfants, au niveau du cycle 3, doivent apprendre, doivent savoir et doivent, si possible, pratiquer un petit peu la construction algorithmique. Alors, moi, la façon dont je le prends, c'est donc enseigner la pensée informatique. Et là, on va retrouver des choses qui ont été dites dans l'exposé précédent. Alors, le terme pensée informatique, c'est un terme qui est un peu fort. Alors, on peut en discuter, hein, point de vue philosophique, etc. En quoi c'est une pensée, en quoi elle se différencie d'autres pensées, etc., etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, évidemment. Je le reprends parce que c'est le terme qui est utilisé. Et c'est un terme qui vient d'une une informaticienne américaine, Janet Wing, qui propose la définition que vous voyez là et qui est grosso modo le computational thinking, la pensée informatique, c'est le fait de formuler les problèmes et de les résoudre de la façon dont on aborde les choses en informatique. Et elle a fait un article qui est très connu, qui est public, hein, en anglais et dans la traduction française, où elle explique qu'il faudrait enseigner ça à tous les enfants, que ce sont des compétences importantes. Alors, tout à l'heure, vous parliez de caractérisation de la pensée informatique. En fait, on trouve des textes, et là, j'ai repris encore une fois, parce que ce sont des textes publics, la caractérisation qui est donnée dans un des bouquins qui est autour de Scratch, hein, donc le petit chat là, qui s'appelle pas Scratch, mais enfin, c'est le logo habituel pour présenter Scratch. Et ils expliquent ce qu'ils entendent par pensée informatique, et même si j'aurais pas... Alors, ça a été traduit par l'INRIA, je crois. Bon, on aurait fait des versions différentes, mais enfin, peu importe, je crois qu'on retrouve bien l'idée de résolution de problèmes. L'idée d'avoir un problème et être capable de formuler les choses en termes de problème, de prendre un problème et d'être capable de le décomposer en sous-problèmes, d'être capable de construire une solution à un problème sous la forme d'une série d'actions, c'est-à-dire sous la forme d'un algorithme, être capable de comprendre qu'il y a des similitudes entre problèmes, donc que si on monte en niveau d'abstraction, le même problème peut être décrit d'une façon un peu plus abstraite, et que du coup la solution que l'on avait pour ce problème-là va peut-être pouvoir être réutilisée pour un sous-problème similaire. Donc on retrouve ces idées d'algorithmique, de décomposition de problèmes en sous-problèmes, de reconnaissance de patterns, de problèmes et de solutions, de généralisation et d'algorithmique. Donc j'avais préparé un transparent au cas où pour aborder la notion d'algorithmique, mais on en a parlé plusieurs fois, donc je rappelle simplement, un algorithme, c'est simplement une succession d'actions dans un certain ordre qui tout ont un effet et dont l'exécution va permettre de faire quelque chose ou de résoudre un problème. Si on parle au niveau cycle 3 et si on pense à des choses comme retour de Scratch, on va avoir des actions du type afficher une information, demander une information à l'utilisateur, calculer une donnée, faire avancer un personnage, faire avancer un robot, faire tourner le robot à droite, à gauche et ainsi de suite. On va faire des actions, des séquences d'actions, des boucles. Hein, on va demander de répéter un certain nombre de choses, de fois quelque chose. Et ce qu'on appelle une conditionnelle, c'est-à-dire si je suis dans tel cas, je fais ceci, et sinon, je fais autre chose. Ça, je pense que c'est un bon programme pour le cycle 3. C'est ce qu'on peut faire en cycle 3. C'est aussi ce que je fais avec mes étudiants en première année d'université. Évidemment, ce sont des problèmes plus difficiles, mais les principes sont exactement les mêmes. On parlait de pensée informatique et de techno ce matin, et la pensée informatique, c'est bien antérieur à l'informatique, hein, bien évidemment. La notion d'algorithme, le nom même vient d'un mathématicien arabe, et ça vient de la nuit des temps, la résolution de problèmes. Donc pour moi, l'informatique, actuellement, n'est qu'un moyen de mettre en œuvre des techniques de résolution de problèmes. Quand on regarde les programmes, les instituts sont censés enseigner l'algorithme de l'addition, de la soustraction, c'est dit comme ça, hein, et depuis longtemps, donc on a bien cette notion d'algorithmique. On connaît le coup de la recette de cuisine, hein, c'est typiquement un algorithme. Quand on fait l'accord du participe passé, est-ce que c'est être, est-ce que c'est avoir? Si l'auxiliaire est être, alors on fait ceci, sinon on fait autre chose, c'est une conditionnelle, c'est exactement ce dont je parlais. Donc un ordinateur, c'est un exécuteur de programme, un programme, c'est la traduction informatique d'un algorithme, et la pensée informatique, c'est ce qui consiste à passer d'un problème à une expression sous forme d'un algorithme que l'on va ou pas traduire dans un langage de programmation. Alors, je vais en revenir maintenant au cœur de mon exposé, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire utiliser Scratch, donc ce langage de programmation pour enfants, pour enseigner la pensée informatique. Alors, pour ça, je vais poser des définitions. Alors, ce n'est pas pour imposer mes définitions, c'est simplement pour être précis dans ce que je vais dire. C'est tiré d'articles de recherche, vous les trouverez sur mon site web si ça vous intéresse. Dans ce que j'appelle une situation pédagogique, c'est une situation conçue pour amener un apprenant, un élève, on va dire, à développer une activité favorable à l'atteinte d'un ou plusieurs objectifs pédagogiques. Si je le pose comme ça, c'est pour mettre en avant le fait que quand on parle de situation pédagogique, ce qui est mis en avant, c'est l'objectif pédagogique. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, concevoir une situation pédagogique, c'est se donner un ou plusieurs objectifs pédagogiques, et puis définir ce qu'on appelle la tâche élève, l'exercice si vous préférez, c'est-à-dire ce que l'on va demander à l'élève de faire, et la tâche d'enseignement, la conduite d'enseignement, comment on va accompagner l'élève, Et la tâche élève et la conduite de l'enseignement sont conçues, sont menées pour amener les élèves à développer une activité, donc une activité cognitive, une activité comportementale, qui va être propice à l'atteinte des objectifs fixés. Donc ce qui est central, c'est l'objectif. Évidemment, ensuite, dans la vraie vie, on sait bien que ben, les choses sont mal calibrées, que ça va trop vite, que ça va trop lentement, qu'il y a une opportunité, donc on saisit un objectif, qu'on en laisse tomber un parce qu'on n'a plus le temps. Mais voilà, ce que je vais mettre en avant, c'est cette idée d'objectif pédagogique. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire utiliser Scratch pour enseigner la pensée informatique ? Ben, ça veut dire proposer une tâche élève qui va amener ses élèves à raisonner en termes de problèmes, de sous-problèmes, de description d'une série d'actions qui va permettre de résoudre le problème, c'est-à-dire d'un algorithme, et éventuellement de traduire cet algorithme-là dans un langage de programmation, Scratch. Il y a plein d'autres langages qui existent, évidemment. Moi, j'utilise Scratch parce que c'est le plus connu, c'est le plus facile. Enfin, il n'y a pas de raison, je ne vois pas vraiment de raison d'en utiliser un autre. Donc, ayant posé cette définition-là, je vais, comme vous l'avez vu dans mon plan, essayer de vous décrire différents exemples pour montrer des choses concrètes. Et le premier exemple, c'est, si ça marche comme je l'espère, vous montrer un petit exemple autour d'un exercice de répartition, mais dont la finalité va bien être d'enseigner la pensée informatique. Simplement, j'ai essayé de mettre en place un habillage qui soit autour des mathématiques. Alors, c'est là que ça va dépendre un petit peu de la résolution du projecteur, voir si on arrive à voir les choses correctement ou pas. Moi, je pense que c'est pas mal visible. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de Scratch, hein, simplement, il y a une scène, il y a un certain nombre de personnages, comme le chat, mais également comme le bouton vérifié. On a des éléments pour construire des programmes, et puis on construit des programmes ici. J'ai un peu augmenté cette zone-là. J'aurais dû faire en ce sens-là. Donc, l'exercice, là, c'est des choses que j'ai testées, moi, en CM2. Ça consiste à construire un programme, enfin continuer un programme. Donc on crée une situation, hein, tout à l'heure on parlait de scénario pédagogique, on crée une situation, il y a un programme, on doit continuer le programme. Alors ce programme, on peut bouger des pommes, vous voyez, on peut déplacer des pommes comme ça, d'accord. Et la situation pédagogique qui est proposée aux élèves, ça va être de continuer le programme pour faire le bout de programme qui correspond, si ça veut bien marcher, à mon... je n'arrive pas à toucher mon... Il faut. Voilà. À faire le bouton vérifier. Alors, donc, exercice. On a un programme où on peut bouger les pommes. On s'adresse aux élèves, là, et on leur dit, votre tâche, c'est de construire le bout de programme qui, quand on appuie sur le bouton vérifier, va dire, les pommes sont bien réparties ou non. Donc, on met les élèves en situation de construction de programme. Donc, pour ça, je fais un peu détaillage, c'est-à-dire que je leur donne des ressources, vous voyez, je leur donne des moyens de faire un si alors sinon. Il y a trois personnages, Riri, Fifi et Loulou. Comment on fait? Donc, on commence à discuter avec les élèves, et la discussion s'engage, ben, il va falloir regarder si le nombre de pommes de Riri est égal à 2, et ensuite Fifi est égal à 2. Ok, d'accord, on va faire comme ça. Si je reprends en termes plus abstraits, on a un problème, on le décompose en trois sous-problèmes, Riri, Fifi et Loulou. On va commencer par regarder si Riri a le bon nombre de pommes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder si Riri a deux pommes. Comment on fait? Donc, ben, on leur explique, hein, on a un comparateur d'égalité, on a le nombre de pommes de Riri, et vous voyez que ça se glisse, je le fais lentement, hein, vous voyez, ça s'allume. On va glisser ici, et on va regarder si le nombre de pommes de Riri est égal à 2. Et je vais dire que si, donc, je glisse ça ici, si le nombre de pommes de Riri est égal à 2, alors... Bravo, c'est correct pour Riri. Et sinon, il y a une erreur pour Riri. Donc j'ai fait ici mon petit bout de programme. Je peux l'attacher ici. Et si j'appuie sur le bouton vérifier, il me dit erreur pour Riri, puisqu'effectivement, il n'y a qu'une pomme. Et si je bouge, je mets une deuxième pomme. Je reviens ici. Alors il est un peu lent. J'appuie sur vérifier. Il va me dire bravo, c'est correct pour Riri. Vous voyez que le bout de programme que j'ai fait ici me permet de regarder si Riri a le bon nombre de pommes. Et ensuite, bah, il faut faire pour Fifi. Comment on fait pour Fifi? Réponse invariable des gamins, pareil. Pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je fais un clic droit sur ce truc-là, et je fais dupliquer, et je duplique mon bloc. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'avais le nombre de pommes de Riri, bah, je vais remplacer Riri par Fifi. Et puis, je vais afficher un message comme quoi, bravo pour Fifi, ou il y a une erreur pour Fifi. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'ils font les gamins? Ben, en fait, ce bloc là, c'est quoi? C'est un bout de solution. C'est la réification, c'est la transformation en chose, visible à l'écran, adaptable, réutilisable, d'un bout de solution pour un sous-problème. Et ensuite, je peux reproduire ce bout de solution et l'adapter. Et donc, vous voyez comment on est dans un schéma. J'ai un problème, je décompose en sous-problèmes, je traite un des problèmes, j'identifie une solution. Cette solution, c'est quelque chose qu'on voit à l'écran. Et je peux la décrire à un niveau un peu plus abstrait et l'adapter pour le problème à côté. Alors, évidemment, on est sur un problème très simple, hein, au niveau cycle 3. Mais là, on voit bien cette idée de pensée informatique et de décomposition de problèmes en sous-problèmes et de réutilisation de bouts de solution. Donc ça, c'était juste au cas où ma démo ne marche pas. Si on reprend cet exercice-là, on pourrait le décliner de pas mal de façons. D'abord, on pourrait jouer sur le côté mathématique, un nombre de pommes, on pourrait demander une répartition d'un uniforme. On pourrait jouer sur la compétence mathématique mise en œuvre, c'est-à-dire que là, c'est un problème de répartition, ce n'est pas exactement un problème de fraction, mais je pourrais, avec un habillage légèrement différent, faire travailler la notion de fraction. Je pourrais travailler sur les notions informatiques, c'est-à-dire quand l'élève, quand l'utilisateur se trompe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Ben, recommencer. Et donc ça serait un vecteur pour faire travailler la notion de boucle, faire travailler aux élèves l'idée qu'on a un bout de programme et qu'on va répéter le bout de programme, on va répéter l'application de la solution jusqu'à obtenir le résultat. On peut jouer sur l'étayage, vous avez vu que là, j'étais testé en classe, hein, c'est pas expérimentation à grandeur échelle, hein, à grande échelle, mais j'étais testé dans une classe de CM2, donc les gamins, ils voyaient pour la première fois Scratch. Ça, c'est un exercice qu'ils ont fait entre 8 et 12 minutes pour les différents groupes que j'avais. Hein. Et on peut jouer sur l'étayage, c'est-à-dire leur donner plus ou moins d'éléments pour faciliter la résolution de la tâche. Et puis, on pourrait encore une fois travailler sur le niveau d'abstraction, discussion avec les élèves. Tu regardes le nombre, si le nombre de pommes de Riri est égal à 2, pourquoi 2? Parce qu'il y a 6 pommes. Oui, mais alors, il y a 6 pommes et il y a 3 personnages, donc je divise le nombre de pommes par le nombre de personnages. Donc au lieu d'écrire « est-ce que le nombre de pommes de Riri est égal à 2 ?», on peut écrire « est-ce que le nombre de pommes de Riri est égal au nombre de, pommes que divise le nombre de personnages ?» Et vous voyez, encore une fois, on monte en niveau d'abstraction. Donc vous voyez comment c'est cette idée d'abstraction, généralisation, et comment à travers l'écriture d'algorithmes, on a un vecteur, on a un moyen pour faire travailler ça. Il y en a d'autres, évidemment. Mais la pensée informatique et l'utilisation de Scratch va être un outil pour faire travailler ce genre de choses. Deuxième exemple, toujours avec des maths. Donc je ne vous fais pas la démo parce que c'est un peu long. Hein. Donc on a, vous voyez, un petit insecte qui est à gauche sur la case 0. On veut faire aux élèves le programme qui consiste à aller jusqu'à la vache. Donc facile, on a un truc avancé de 1. On va dupliquer avancé de 1. On va faire avancé de 1, avancé de 1. On va jusqu'à la vache. Ok, maintenant on fait le programme pour avancer jusqu'au chien. Avancer de 1, avancer de 1, avancer de 1, avancer de 1. Ok, maintenant on va aller jusqu'à l'oiseau, comment on fait? Et là les élèves, ça renacle un peu, ils se disent, bon, c'est le moyen de se dire, il y a peut-être une autre façon de faire. Et là, on peut jouer sur deux variables didactiques en fait. On peut jouer sur le pas ou on peut jouer sur l'itération. Donc on peut expliquer aux élèves que ben, plutôt que d'avancer de 1, on irait plus vite en avançant de 2 ou en avançant de 3. Ou, si j'abstrais, en avançant de x. Et donc là, on va jouer sur le pas, sur la variable didactique pas. Une autre façon d'aborder les choses, c'est de dire, ben, on va avancer de 1, mais on voudrait éviter d'aligner 14 fois avancer de 1. Et ben, en fait, on peut faire répéter un certain nombre de fois, 14 fois, c'est-à-dire je peux faire une boucle. Et donc je vais pouvoir utiliser ce bloc jaune-là, répéter, avancer de 1, je vais mettre 14 comme valeur, et ça va avancer 14 fois. Et si je fais ça, je vais travailler la notion de boucle, qui est une notion fondamentale de l'algorithmique. Si vous pensez en termes de maths, je fais une multiplication par addition réitérée. Et vous voyez qu'il y a une jonction entre les concepts de maths et les concepts de pensée informatique. Une question en passant, hein, que font les élèves quand ils font ce type d'exercice? Des maths, de l'informatique, des maths en contexte informatique, de l'informatique en contexte de maths, des maths et de l'informatique en même temps. Le didacticien des maths avec qui je travaille sur ces exercices-là, il croit qu'ils font des maths dans un contexte informatique. Alors que moi qui suis informaticien, j'ai bien compris qu'ils faisaient de l'informatique dans un contexte de maths. Est-ce que ça a vraiment une importance? on est immédiatement sur des affaires de pluridisciplinarité, comme on l'a vu dans l'exposé précédent. Ce qui demande de faire attention, parce que, évidemment, quand je vais travailler sur le lien, par exemple, entre addition, réitérée et boucle, bah, il faut faire attention, si je m'appuie une compétence sur une compétence pour enseigner l'autre, que la compétence soit acquise. Donc il faut faire attention à ce que l'on fait. Troisième exercice, je vais encore monter en niveau d'abstraction. Exercice classique que j'ai pris dans un bouquin de CM1 ou de CM2, résolution de problèmes en maths. Alors, on peut aborder les choses de différentes façons. Moi, la façon dont je l'ai abordé, c'est au lieu de demander aux élèves de résoudre le problème, c'est de demander aux élèves de construire un programme qui va résoudre le problème. Et pour ça, c'est toujours pareil, scénarisation, donc je fais un habillage. Et donc, je vais leur proposer de construire un programme, alors je ne vais pas vous le présenter parce que c'est un peu long, construire un programme dans lequel il y a quatre personnages. Il y a le personnage du magicien en bas, et puis il y a Do, Val et Cal. Do, pour donner, c'est le personnage qui va être chargé du bout de programme pour identifier les données dont je dispose. Par exemple, ici, j'ai quatre valises, elles font 8000 grammes pleines. Val, le personnage du haut, c'est le bout du programme qui va devoir identifier les valeurs que je cherche. Et Cal, vous l'avez compris, c'est le personnage qui va devoir calculer les valeurs à partir des données. Et le magicien en bas, lui, il donne la main à Do, à Val, puis à Cal. Et la tâche élève, c'est d'écrire les bouts de programme correspondant à ces différentes choses. Et donc, vous voyez que là, on va être sûr de la résolution de problèmes. Alors, qu'est-ce que ça change si, au lieu de 4 valises, il y en a 8 ? Ben, il va falloir changer les valeurs. Mais qu'est-ce que ça change si, au lieu d'avoir des valises, j'ai une barrique avec des litres et des bouteilles? Il va falloir que je change les valeurs, il va falloir que je change les variables. Mais la démarche de résolution de problèmes qui consiste à identifier les données que j'ai, chercher les valeurs et faire les calculs des unes par rapport aux autres, cette démarche-là, elle va rester. Et donc on peut imaginer, mais je ne l'ai pas testé, mais on peut imaginer qu'en utilisant de façon réitérée la construction d'un programme sur des valeurs différentes, on va pouvoir avoir un effet sur l'apprentissage de la démarche de résolution de problèmes qui est sous-jacente et qui, encore une fois, et ça c'est un effet de l'informatique, est réifié par le système. Juste histoire de ne pas faire que des maths, je vais peut-être relancer juste pour montrer comment on peut travailler la production de texte. Donc c'est un exemple classique, hein, je vais le mettre en grand. Voilà, si je lance le programme, donc deux personnages, vous voyez, qui parlent, vous voyez qu'ils bougent également. Hein. Donc le dialogue n'est pas terrible, simplement j'attire votre attention, vous voyez que les personnages bougent. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différentes photos des personnages et on peut passer de l'un à l'autre. Okay. Alors, si on regarde le programme qui correspond à ça, ben, je vous l'ai mis là, hein, deux personnages, deux bouts de programme. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est la même chose. Je me mets sur un certain costume, c'est-à-dire sur une attitude, donc attitude interrogative, attitude affirmative, hein, je bouge de façon l'une ou l'autre. Je dis quelque chose, et puis j'attends, ce qui est une façon très très basique de synchroniser les choses. Un personnage dit quelque chose pendant que l'autre attend, et puis ensuite, inversement. Et donc, on peut prendre ce bout de programme et puis dire aux élèves, ben, voilà, continuez, imaginez un texte, imaginez un dialogue. Et on peut faire un peu plus que ça, on peut leur dire imaginez un dialogue basé sur les attitudes des différents personnages. Et là, on va travailler simplement la production de texte, mais en même temps, on fait un programme, tout bête, mais on fait un programme, on fait un algorithme qui est une séquence d'actions. Je vais reprendre cet exemple-là, puis je vais le décliner de façon un peu plus importante, en m'inspirant, et je vais reprendre leur texte, d'un projet qui a été mené dans une école dans la banlieue grenobloise, CM2. Au lieu d'inventer un dialogue, c'est inventer un schéma narratif. Situation initiale, différents personnages, un lieu, un but, des éléments déclencheurs, un déroulement, une situation finale. Détailler chaque scène. Hein, il y a différents personnages, des arrière-plans, des décors. Donc on peut dessiner les arrière-plans, on peut les importer comme des photos. D'accord. Créer des consignes, des dialogues, des aides. Inventer des énigmes à résoudre, hein, pour passer d'une scène à une autre, il va falloir résoudre un petit problème de maths, répondre à un quiz, et ainsi de suite. Et puis on en arrive à, bah, si on veut animer tout ça, pour passer d'une scène à une autre, bah, il va falloir écrire un petit bout d'algorithme. Si on appuie sur tel bouton, je vais aller à tel endroit, sinon je vais afficher cela. Si l'élève répond ceci, je vais faire quelque chose. Tant que l'élève ne fait pas quelque chose, ne pas avancer. Donc vous voyez qu'on peut faire travailler des compétences ici en production de texte, mais également en créativité, et arriver vers des compétences qui vont être relevées de l'algorithmique et ensuite de la programmation si on le fait avec Scratch. Même question que tout à l'heure, hein, ce que font les élèves quand ils font ce type de projet. Différentes choses. Donc, sur la base de ces exemples-là, je vais essayer d'analyser un peu les choses. Alors ça, c'est une blague, c'est juste pour mes collègues informaticiens, hein, mais c'est juste un petit bout de programme qui écrit 500 fois « Non, je ne ferai pas voler les papiers hein, », donc c'est une blague classique. Hein, je fais pas, j'écris pas à la main, j'écris le programme. Voyez, c'est juste, ça me permet aussi de vous montrer ce que c'est qu'un programme écrit dans un langage professionnel, en l'occurrence C. Alors, on ne peut pas montrer ça à des élèves de cycle 3. Mais ça, ils l'écrivent en deux instructions avec des blocs, en déplaçant des blocs, hein, en Scratch. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les enfants et qui l'utilisent assez facilement. Alors, j'étais parti de pourquoi enseigner la pensée informatique. J'ai présenté différents types d'objectifs. Je vais vous donner mon point de vue personnel, hein, qui n'engage que moi. Ben, on a vu qu'il y avait des compétences en termes d'algorithmique, logique, décomposition de problèmes en sous-problèmes, abstraction, généralisation. Ce n'est pas de l'informatique, ça. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui sont... Enfin, j'admets tout à fait que OK pour le terme pensée informatique, mais ça dépasse largement ce qu'on appelle habituellement informatique. Ce sont des compétences générales. Donc, je pense qu'on peut effectivement affirmer qu'elles sont utiles et importantes. Est-ce qu'on a besoin de l'informatique pour enseigner ça? Non. Est-ce qu'il y a des avantages à utiliser l'informatique? C'est là que c'est intéressant d'avoir des travaux de recherche et c'est ce qu'on va essayer de faire. Moi, je vois un certain nombre d'avantages, je vous les ai cités. Hein. Le premier, c'est la réification, c'est-à-dire qu'on voit des objets à l'écran, on peut les manipuler. Hein. On a des blocs, on peut construire des blocs un peu plus importants, on a le bout de solution qui résout le problème de Riri, je peux le dupliquer et résoudre le problème de Fifi. On a des objets concrets, c'est ce que nous disaient les collègues tout à l'heure aussi quand elles nous parlaient de robots. D'accord. En revanche, on n'a pas d'aspect tangible là. C'est pour ça que je leur posais la question, quel est l'avantage du robot par rapport à un travail sur un écran. On peut valider la solution, tester la solution à part l'exécution du programme. Donc on est sur le triptyque anticipation, contrôle, validation qui fait partie des programmes. Et là, très naturellement, la machine va nous permettre une forme de mise en œuvre de ce triptyque-là. Et puis on est sur les aspects ludiques et motivants. Alors, j'ai eu la même expérience que vous, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, les gamins, ils sont excités, ils en veulent, ils veulent travailler. La classe dans laquelle j'ai testé ça, ils redemandaient ensuite à leur institutrice des exercices qu'elle avait peine à leur donner parce qu'elle n'avait pas de ressources, hein, mais parce qu'ils étaient moteurs. Après, en tant que chercheur, je me méfie de cet aspect ludique et motivant. Hein. C'est-à-dire, bon, je pense que si on faisait vraiment travailler les gamins 2 heures sur le truc comme ça, ils seraient comme nous, ils auraient envie de prendre la babasse et de la mettre par la fenêtre. Donc il faut faire attention, toutes les études montrent qu'il y a une motivation, hein, une motivation intrinsèque des élèves dans ce genre de situation-là, jusqu'où et jusqu'à quand elle a un effet positif en termes d'apprentissage, ça il faut le mesurer. Et puis dernier avantage, j'ai décliné mes exemples là-dessus, on peut coupler l'apprentissage de la pensée informatique et d'autres domaines, on a vu des exemples en maths, en français, production de texte, on peut travailler langue seconde, hein, écrire des choses en anglais, et ainsi de suite. On est immédiatement sur des éléments de pluridisciplinarité. Au niveau de la mise en œuvre, on a un schéma prototypique, hein, c'est la tâche élève, c'est de faire un programme qui fait XXX, et faire ce programme-là va demander de travailler, de mobiliser les compétences cibles. Donc on peut ensuite faire travailler les élèves sur des compétences en maths, ou en production de texte, ou en traduction de texte en anglais, ou en informatique, d'écriture d'algorithmique, de boucles, et ainsi de suite. Et comme l'ont fait remarquer les collègues tout à l'heure, derrière construire, il y a des tas de verbes qui sont inventés, testés, programmés, présentés à des tiers, discutés, améliorés. Donc il y a pas mal de compétences générales que l'on peut faire travailler autour de ces choses-là. Et puis, on peut les faire travailler à différents niveaux de granularité. Au niveau de la granularité que sont les exercices, comme ceux que j'ai présentés tout à l'heure, exercices de maths, répartition, ou exercices qui correspondent à des projets, par exemple le projet d'école que j'ai indiqué, qui là se déroule sur plusieurs semaines, avec l'aide de l'INRIA d'ailleurs, et où et là on peut se poser la question, est-ce que le projet est imposé ou est-ce que c'est un projet personnel? Alors je voudrais reprendre ces deux aspects-là et les décliner. Et moi, la façon dont j'ai de le présenter, c'est de décliner une approche orientée algorithmique, une approche orientée créativité. L'approche, ce que j'appelle l'approche orientée algorithmique, c'est l'idée que l'objectif pédagogique, c'est enseigner l'algorithmique et les notions qui sont derrière. Donc c'est ça qu'on se donne comme objectif. Et ensuite, pour atteindre cet objectif-là, on peut utiliser plus ou moins l'ordinateur selon qu'on ait une approche très technocentrée ou pas. Donc dans une approche technocentrée, le but c'est que les élèves sachent écrire des algorithmes et sachent programmer. Et donc évidemment, on utilise l'ordinateur comme étant le truc qui va opérationnaliser les algorithmes. Et puis si on a une mise en œuvre, un objectif plus abstrait, ben, en fait on va s'intéresser à la résolution de problèmes. Et l'algorithmique n'est qu'une façon de faire travailler la résolution de problèmes. Et la programmation sur machine est éventuellement un moyen de mettre en œuvre les algorithmes, mais on peut faire sans. Et du coup, on peut faire de l'informatique unplug, comme on a dit, débranché. Hein. Voilà. Et ça, c'est une approche qu'on trouve de façon très prégnante dans les gens, dans les textes, qui promeuvent l'enseignement de l'informatique comme discipline, en tant que l'algorithmique en tant que telle. Une autre approche que j'appelle orientée créativité, et qui est l'approche qu'on retrouve essentiellement dans les textes US et anglo-saxons de façon plus générale, c'est pas d'enseigner l'algorithmique, c'est de mettre l'élève en situation de créativité. Alors il y a des tas de raisons pour lesquelles la créativité c'est important, mais moi je vais juste rester sur le point de vue informatique, c'est que l'informatique peut être un moyen d'exprimer cette créativité. Alors évidemment, c'est pas la seule, je suis pas en train de dire il faut abandonner le papier crayon, la musique, les arts, la peinture et ainsi de suite. C'est un moyen parmi d'autres. Et en mettant les élèves en situation de créativité, l'idée c'est qu'ils vont construire des projets. Et en construisant ces projets, ils vont être amenés, ils vont tomber sur des problèmes d'algorithmique et de programmation. Mais ils vont tomber sur ces problèmes-là avec une motivation intrinsèque. Et c'est ça l'énorme différence avec un exercice académique tel que ça leur est présenté en classe, par exemple, un exercice de maths. Donc le raisonnement sous-jacent, vous voyez, c'est d'aborder l'enseignement de l'informatique à travers la conception de situation de créativité, de mettre les élèves en situation de créativité, et en guidant l'enseignement, c'est la tâche de l'enseignement, en conduisant l'enseignement pour les amener à travailler sur certaines compétences. Et j'ai lu des articles de recherche là, où ils faisaient des analyses de ce que faisaient des élèves aux États-Unis où ils travaillaient beaucoup comme ça l'informatique en contexte périscolaire. Et vraiment une question, un truc qui m'avait marqué, c'est qu'ils posaient la question, mais donc ils travaillent en périscolaire. Hein. Et ce que vous faites en périscolaire, donc ils font des algorithmes, des boucles, voilà. Et on posait la question aux élèves, mais si vous deviez le ramener à une compétence scolaire, à une discipline scolaire, ce serait quoi? Et la réponse qui venait en premier, c'était art. Et maths et informatique, ça venait tout à la fin. Ce qui n'empêche qu'ils travaillaient l'algorithmique. Pour la petite histoire, Scratch, c'est fait pour ça. C'est pas du tout un langage fait pour programmer des algorithmes. C'est un langage fait pour mettre les élèves, les enfants, plus exactement, en situation de créativité. On l'a évoqué ce matin hein, dans l'historique qui a été fait. Hein, le prédécesseur de Scratch, c'est le logo. Et l'approche théorique qui est derrière, c'est ce qu'on appelle le constructionnisme. Donc c'est un jeu de mots de Papert, hein, qui était un ancien élève de Piaget. Donc il a construit un jeu de mots sur constructivisme avec l'idée que le constructionnisme, c'est que si les élèves, les enfants construisent des objets avec une motivation intrinsèque et discute, explique ces objets qu'ils construisent, ça va être un contexte particulièrement favorable à l'apprentissage. D'où Logo et d'où maintenant Scratch. Ce qui explique cet environnement Scratch, parce que faire danser des personnages, leur faire de la musique ou tourner en rond, du point de vue de l'enseignement algorithmique, ça ne sert à rien. En revanche, ça permet d'exprimer sa créativité et quand on va les faire tourner en rond, on va avoir besoin du debout. Alors après, on pourrait continuer l'analyse, hein, apprentissage implicite, explicite, etc. Mais bon, je n'ai pas le temps de rentrer trop en détail. Si je reprends mon tableau des objectifs pédagogiques de tout à l'heure, vous voyez que quand on parle pensée informatique, on n'est pas du tout sur la techno. On peut le faire en passant, évidemment, mais on n'est pas sur l'apprentissage de ce que c'est qu'un ordinateur. On est sur l'algorithmique et la résolution de problèmes. On met les élèves en situation d'écrire leurs algorithmes sous une forme opérationnelle sur machine, c'est-à-dire en langage Scratch. Ils savent programmer. Est-ce qu'ils comprennent la notion de langage de programmation? J'en mettrai pas ma main au feu. Et est-ce qu'ils comprennent la notion de langage tout court? Encore moins. On peut utiliser Scratch et l'utiliser de façon pertinente sans comprendre vraiment, dans le fond, ce que c'est qu'un langage de programmation. Évidemment, on peut faire travailler d'autres compétences. les aspects créativité et le fait de tourner sa créativité vers des choses que l'on va pouvoir décrire avec un outil, par exemple, l'outil informatique, l'outil Scratch. Et évidemment, en passant, on peut expliquer que tous les programmes ne sont que la mise en œuvre d'un algorithme et que donc, quand on demande au moteur de recherche Google de renvoyer de l'information, ce n'est pas un truc magique qui se passe, c'est un enchaînement d'actions qui détermine la réponse à la question. Donc il y a quelqu'un qui a écrit cet enchaînement d'actions et donc ce qui est renvoyé, ce n'est pas ce qui existe, mais ce que la personne qui a écrit le programme a décidé de nous renvoyer. Et on peut discuter ensuite, hein, mais ce n'est pas central dans ce que je vous ai présenté. Je voudrais terminer cet exposé en abordant un point mais qui a été également abordé à l'instant, hein, c'est aider les enseignants. Ça, c'est ce qui a marqué dans le socle commun, hein, vous l'avez lu tout à l'heure. Hein. Donc moi, je fais un transparent comme ça, je présente ça à mes étudiants, hein, mes, qui sont instits, hein, qui sont à moitié à l'ESPE, moitié dans les classes. Hein. Je leur dis, ben voilà, ça c'est ce que doivent savoir les gens à 16 ans, et je leur dis, et vous savez faire ? Vous savez ce que c'est qu'un algorithme ? Vous savez écrire un programme ? La réponse est non. Hein. À 80 ou 90%, la réponse est non. En fait, la plupart des étudiants ne savent même pas ce que c'est qu'un algorithme. Sur les 118 étudiants que j'ai vus l'an dernier, à la fin du cours, je posais la question, est-ce que vous saviez ce que c'était que la pensée informatique et la programmation Scratch avant le cours ? Oui, non, un peu. Oui, zéro. Un peu, quatre. Donc, après, ils me disent, bah, c'est pas notre faute. Et non, évidemment, c'est pas leur faute. Mais c'est quand même un problème que des enseignants formés maintenant, qui vont enseigner pendant, alors je sais pas combien d'années, 40, 45 ans, pendant longtemps, hein, ne maîtrisent pas le socle commun. Voilà, ça fait réfléchir, quand même. Alors, ensuite, c'est de dédramatiser. C'est-à-dire que pour enseigner la pensée informatique, je parle pas de l'informatique, hein, et là, encore une fois, je parle de cycle 3. Et pour enseigner la pensée informatique, alors là, je ne suis pas d'accord avec plein de collègues en informatique, hein, mais moi, mon point de vue, c'est qu'on n'a pas besoin de maîtriser la discipline informatique. On peut maîtriser un certain nombre de choses qui sont les compétences que l'on veut enseigner. En l'occurrence, compétences en résolution de problèmes, et puis les notions qui vont être si, alors si, donc, et de faire une boucle. La difficulté, ce n'est pas ça, ce n'est pas de maîtriser ça, parce que ça, bah, il suffit de bosser un peu, tout le monde y arrive. La difficulté, c'est de raisonner en termes d'objectifs pédagogiques, c'est-à-dire de se poser la question, de conceptualiser les choses. Qu'est-ce que je veux enseigner aux gamins ? Comment je vais m'y prendre ? Quel type d'exercice ? Comment je vais conduire l'enseignement ? Et ainsi de suite. Et ensuite, la technique, c'est-à-dire le langage, va venir comme un moyen pour mettre en œuvre les choses. Et du coup, je vais dans le mauvais sens, j'essaye de leur expliquer que s'ils conceptualisent leur enseignement en termes de « il faut enseigner Scratch », « il faut enseigner le langage de programmation », ça veut dire que le langage de programmation est l'objet d'enseignement. Si c'est l'objet d'enseignement, il faut que l'enseignant ait une maîtrise disciplinaire et didactique. Mais si on enseigne la pensée informatique, la résolution de problèmes, et qu'à un moment donné, on veut le mettre en œuvre avec Scratch, Scratch, ce n'est pas l'objet d'enseignement, c'est une ressource. Et donc l'enseignant, doit avoir une connaissance générale et doit être capable de trouver des réponses. C'est-à-dire il doit être capable d'aller dans la doc et de chercher avec l'élève comment on fait. Et ça change considérablement les choses. Parce que même avec une petite formation à l'ESPE, même en se formant tout seul, un enseignant du primaire, il n'aura jamais la maîtrise disciplinaire de l'informatique. Sauf s'il a fait des études d'informatique avant ou si c'est un geek, évidemment. En revanche, il peut se former sur ce que l'on peut enseigner en termes de pensée informatique au cycle 3 et savoir utiliser Scratch pour ce qu'il va faire, pour son enseignement, et être capable d'aller chercher des réponses aux questions qui vont lui être posées s'il ne sait pas répondre directement. Pour aider les enseignants, il faut aussi identifier les problèmes, hein, les aider. C'est le début. Hein. Alors, première chose, accès à des ordinateurs. Les enseignants disent immédiatement, on n'a pas d'ordinateur dans les classes, ou j'ai deux ordinateurs dans ma classe. Je leur dis, heureusement, parce que si vous aviez 25 ordinateurs dans votre classe, vous en sortiriez jamais. Hein, c'est absolument impossible. Il faut travailler sur des ateliers tournants, hein, ou alors il faut avoir du soutien dans la classe. Alors évidemment, on peut faire des expériences avec 2, 3, 4 adultes qui viennent dans une classe et qui font travailler toute la classe. Et ça, c'est pas la vraie vie. Hein. La vraie vie d'un instit, c'est, j'en ai 25 en face de moi, ou plus. et j'ai deux, trois ordinateurs, je sais bien, et il faut gérer ça. Donc on peut faire des ateliers tournants. Rattacher ça à des éléments dans le cycle, puisque vous savez bien que les instituts, ils ont des inspecteurs, que c'est important de faire des choses qui sont au programme. Comment on rattache ça? Moi, j'ai discuté avec pas mal d'instituts. Donc le document que j'ai mis en ligne, du coup, ça a été lu par des instituts qui m'ont fait des retours. J'ai eu par exemple des instituts de maternelle qui m'ont dit qu'ils rattachaient l'algorithmique à l'éducation civique et morale. Alors, genre, je vois l'institut à côté de moi qui dit oui, oui, moi j'ai ouvert des yeux ronds, je dis mais comment? Et alors lui, il me disait, bah oui, respect des consignes. Et donc, il faisait le lien entre respect des consignes et algorithmique. Il y a évidemment la charge de travail, de formation, la tenue de la classe, hein, c'est-à-dire que tous les instituts avec qui j'ai discuté, alors il y a peut-être des échos tout à l'heure, mais me disaient, bah oui, il y a de l'excitation, donc il faut arriver à gérer les choses, hein, à gérer les choses positivement, parce que faire des choses en périscolaire ou dans un atelier, c'est une chose, mais dans la classe, il y a des objectifs d'apprentissage, il faut faire attention à ce qu'on fait. La relation enseignant-élève, non-omniscience de l'enseignant, hein. Nous, c'est un truc auquel on est habitué à l'université. Moi, je suis prof d'informatique à l'université. En informatique, c'est comme ça. J'en connais ça, j'en comprends ça, j'en enseigne ça. Et souvent, on me pose une question, un élève, un étudiant me pose une question, et voilà, je ne sais pas répondre. Mais c'est habituel de dire, ben voilà, là, c'est un truc technique, je ne sais pas, je vais aller chercher dans la doc. Ça, c'est une posture qu'on connaît bien à l'université, qui est peut-être plus difficile dans les classes, et qui... est, à mon avis, une façon d'évacuer la difficulté et l'angoisse qu'il peut y avoir derrière la maîtrise disciplinaire. Problème de motricité, ça c'est juste une anecdote, mais bon, moi je ne suis pas instit, j'étais dans la classe, et vous voyez, quand j'ai tapé « est-ce que Riri est égal à 2 ?», il faut écrire 2. Donc il faut cliquer dans le petit truc pour écrire 2. Et il y avait pas mal d'élèves qui avaient des difficultés, en fait, à bouger la souris. Et j'étais surpris parce que, pour des projets de recherche, j'avais testé dans des classes avant, et il me semblait qu'il n'y avait pas ces difficultés-là. En discutant avec les instituts, ils m'ont dit, bah oui, mais maintenant, à la maison, ils n'ont plus d'ordinateur, ils n'ont plus de souris, ben voilà, ils ont des tablettes. Donc ils font joujou sur la tablette. Et du coup, ils ont du mal à avoir une motricité fine avec... voilà. Donc il y a des tas de problèmes, que ceux-là, je n'avais absolument pas anticipé, et qui se posent dans la vraie vie. Et puis, il y a des tas de questions didactiques, hein, au sens didactique de l'informatique, qui est un truc qui n'existe pas en France, quasiment pas. Quelles sont les représentations des élèves? Quand j'ai commencé l'enseignement de l'informatique, mes étudiants, ils n'avaient jamais vu un ordinateur, donc on partait sur un terrain vierge. Maintenant, tous les gamins, ils ont vu des ordinateurs, ils ont vu des tablettes, donc ils ont des représentations de comment ça fonctionne. Donc il faut faire avec, et ça, c'est des problèmes didactiques. Est-ce qu'on essaye de guider les élèves ou de les rendre autonomes? Moi, quand je vais faire une expérimentation en classe, je fais de l'étayage et je les guide parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Scratch est un environnement complexe. Si je les laisse chercher partout, ça va prendre des plombes, mais d'un autre côté, ça mobilise l'enseignant. L'autre stratégie, c'est de rendre les élèves autonomes. Et ça, ça prend du temps. Et donc, il faut trouver des approches qui vont permettre de concilier ces deux aspects. Est-ce qu'il faut faire dissocier les principes abstraits d'algorithmique puis traduire en Scratch ou faire du Scratch directement? Les collègues informaticiens vont m'assassiner, mais moi, je dirais qu'aussi que 3, je ne vois pas l'intérêt de dissocier l'algorithme et la programmation, étant donné qu'on a des structures de programmation qui sont exactement des structures algorithmiques. Je ne dirais pas la même chose au collège, au lycée, et certainement pas à l'université. C'est classique, Scratch, hein, c'est un univers de partage. Donc tous les programmes Scratch, on peut les récupérer et les modifier. C'est une approche classique en informatique, y compris chez les développeurs professionnels maintenant. On récupère des bouts de code et on les agence. Comment faire la balance entre apprendre à prendre un bout de code et le modifier, et apprendre en modifiant, et partir de rien? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients en termes d'apprentissage? C'est une question didactique pour laquelle on n'a pas de réponse. Dernier point, les notions d'erreur. Utiliser la notion d'erreur pour déstabiliser des conceptions erronées, tous les enseignants connaissent ça. On fait tourner le programme, ça ne fait pas ce que l'on veut, on se demande pourquoi, hein, c'est un ressort classique. Quelle est la part des choses entre tâtonnement expérimental et démarche essai-erreur sans réflexion? Là aussi, c'est un problème de conduite de l'enseignement qui est difficile. Donc vous voyez qu'il y a des tas de problèmes, de questions générales et de questions didactiques qui se posent, pour lesquelles on n'a pas encore de réponse, parce que bah voilà, c'est un enseignement qui commence et sur lequel il y a des enseignants motivés et un petit peu qui avancent devant, et la recherche est pas mal loin derrière, en tout cas sur ces aspects didactiques. Enfin. Dernier point, il faut donner des raisons de se lancer, c'est-à-dire que c'est sympa, hein, quand on montre ça à des enseignants, ils disent c'est super chouette, mais il y a plein de trucs qui sont super chouettes. Et ils ont déjà des tas d'activités qui sont chouettes. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à se lancer dans l'enseignement de la pensée informatique, dans l'utilisation de Scratch? Au-delà de « c'est sympa, c'est moderne, on va faire plaisir aux parents d'élèves, ou à l'inspecteur, ou c'est à la mode, ou bah, effectivement les gamins sont contents bah, ». La réponse, elle est simple. Est-ce qu'il y a des apprentissages? Est-ce qu'il y a un gain pour les élèves? Donc, est-ce qu'il y a un apprentissage sur des compétences générales, sur des compétences en résolution de problèmes? Et si oui, est-ce qu'il y a transfert? Est-ce que ça se transfère en maths dans d'autres disciplines? Est-ce qu'on peut mieux apprendre les maths ou le français ou autre chose en jouant sur le contexte construire des programmes? Est-ce qu'il y a un effet sur la motivation? Est-ce qu'il y a un effet sur la confiance en soi? Si on donne des réponses à ces questions-là, on va donner des bonnes raisons à des enseignants de se lancer. Sinon, c'est chouette, mais on ne sait pas trop comment ça marche. On risque de se mettre en difficulté. J'ai déjà plein de choses intéressantes à faire. Pourquoi j'irai prendre des risques? Mon dernier transparent, c'est juste pour signaler que ben voilà, c'est des questions qu'on se pose et donc on est les heureux lauréats d'un programme IFRAN, donc c'est des programmes financés par le PIA hein, et avec le ministère. Et donc ben, c'est tout nouveau et notre programme s'appelle EXPIRE. Alors c'est pas on est mort, hein, c'est on souffle, on se relaxe. D'accord. Expérimenter la pensée informatique pour la réussite des élèves. Trois hypothèses. Première, enseigner la pensée informatique, en plus de son intérêt intrinsèque, que j'ai essayé de vous montrer là, c'est peut-être bien un vecteur intéressant pour l'enseignement des maths. Deux raisons pour les maths. D'abord, c'est un enseignement fondamental, et puis c'est un enseignement auquel les instits, les professeurs d'école sont attachés, parce que c'est important. Si on arrive à montrer qu'il y a une valeur ajoutée quand on enseigne les maths, c'est une façon de faire rentrer la pensée informatique à l'école. Deuxième aspect de la question, est-ce que faire travailler les maths, faire travailler des compétences de résolution de problèmes dans un environnement informatique, c'est quelque chose qui peut donner une certaine confiance en soi, que l'on va transférer quand on va se retrouver dans une situation scolaire, et donc permettre de lutter contre des situations d'auto-handicap, hein, c'est des maths, je suis mauvais en maths, donc je ne vais pas y arriver. Troisième aspect, est-ce qu'on peut arriver à former des professeurs des écoles standards? Alors j'ai mis des tas de guillemets autour de standard. Hein. Ce que je veux dire, c'est pas le cas particulier qui a fait des études d'informatique ou qui est un geek ou qui est particulièrement motivé. L'instituteur standard qui a sa classe, qui ne s'intéresse pas particulièrement à l'informatique, qui se dit que c'est peut-être un vecteur pour enseigner les choses qui est pertinent. Est-ce qu'on peut arriver à les amener à utiliser la pensée informatique de façon banalisée et efficace dans leur classe? Donc on travaille avec, là, on va déployer des choses dans les écoles de la ville de Grenoble, en scolaire et en périscolaire. On va travailler avec le CSSTI, la classe math, pour faire des ateliers périscolaires. Et on va beaucoup travailler avec le rectorat et l'ESPE pour mettre en place des plans de formation. Et on va mesurer les apprentissages, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir, par des techniques classiques de sciences de l'éducation, un pré-test, post-test, est-ce qu'il y a des apprentissages? Quels sont-ils? Pour essayer d'avoir des données scientifiques pour étayer le discours de promotion de l'enseignement de la pensée informatique. Voilà. Merci.